Et à 12h46, la grande table, on vous retrouve Romain de Bec de Lièvre.
Merci Jacqueline Fardel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est midi 45 et c'est la grande table d'été. Ce n'est qu'en 1978 que sort sur les écrans français un film en noir et blanc, Voyage à Tokyo. 1978, c'est-à-dire 25 ans après sa sortie au Japon en 1953. Son auteur est le cinéaste japonais Yasujirō Ozu, et il est alors mort depuis 15 ans. Voyage à Tokyo raconte l'histoire d'un couple de grands-parents en visite chez leurs enfants dans la capitale japonaise. Une intrigue familiale, des plans fixes sur des intérieurs, des visages et des visages. C'est un autre Japon qui apparaît sur l'écran pour le public français, différent des fresques historiques et héroïques d'Akira Kurosawa. Un Japon du quotidien, un Japon qui se transforme et une immersion dans les structures sociales. 10 films de Yasujirō Ozu qui vont de 1949 à 1962 sont sortis sur les écrans en version restaurée. On revient sur l'œuvre du cinéaste en première partie avec Pascal-Alex Vincent et Adrien Gombeau. En seconde partie, portrait du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan à l'occasion de la sortie en salle de son dernier film, Le Poirier Sauvage. Bonjour Pascal-Alex Vincent.
Bonjour.
Vous enseignez le cinéma à Paris 3 et vous avez dirigé le dictionnaire des cinéastes japonais publié aux éditions Carlotta Film. Et bonjour Adrien Gombeau.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos et critique de cinéma et particulièrement passionné du cinéma asiatique. On écoute d'abord un extrait de Bonjour en 1959.
テレビばっかり見たがって。ああ、今お相撲ね。しょうなのよ。ああ。ねえ、奥さん。This is a dog. こうちゃん、先行ってるよ。ねえ、お母さん、出してくれよ。ねえ。どうしたのさ、窓お腹悪いのかい？どうしてパンツ汚すのさ。毎日やないか。そんなつもりで洗濯買ったんじゃないよ。お母さん、出してくれよ、パンツ。
C'est un premier extrait de film de Yasujirō Ozu, Bonjour, sorti en 1959, où on entend des enfants, et notamment un enfant qui fait une leçon en anglais, où il dit « This is not a dog ». Et on entend ces deux langues, la langue occidentale et la langue japonaise qui se marient. Je le disais en introduction, Ozu, c'est quelqu'un qui, pour le public occidental, est apparu très tard, c'est-à-dire après sa mort. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette apparition tardive d'Ozu ?
Ce qui se passe, c'est que c'est un cinéaste de studio qui a, dont tous les films ont été produits par une très grosse compagnie qui s'appelle la Shōchiku. Et la Shōchiku elle-même avait une sorte de réticence à nous montrer les films d'Ozu, pensant que ces films étaient beaucoup trop japonais pour le public français. Et donc, il faudra en effet attendre 1978 pour que Voyage à Tokyo sorte au cinéma en France. Et c'est en effet donc une reconnaissance très tardive, mais ça vient en partie du fait que donc les producteurs pensait que c'était pas pour nous.
Et pourquoi ?
Il y avait cette idée qu'Ozu était beaucoup trop japonais, c'est-à-dire qu'il y avait surtout l'idée que le public français avait envie d'un cinéma japonais a priori exotique, c'est-à-dire avec des samouraïs, des sabres, des geishas, des châteaux, etc. Et que eh bien, le cinéma contemporain, urbain, des petites gens d'Ozu, voilà, c'était pas pour nous. Donc voilà, et on se rend compte qu'aujourd'hui, au contraire, c'est un cinéma et un cinéaste tout à fait universel et qui plaît partout où qu'on soit dans le monde.
Adrien Gombeau, sur cette réception tardive d'Ozu.
Oui, ça a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a découvert Ozu, je dirais, à rebours, c'est-à-dire qu'on a lu tout Ozu en fonction des derniers films. Et c'est vrai que il a eu cette image comme ça d'un cinéaste de plan fixe, hiératique, etc. Mais en fait, ça concerne précisément les films qu'on peut voir actuellement en salle. Mais ses premiers films ne sont pas du tout comme ça. Et on les a découverts encore plus tard. Donc ces cartes qui ont été battues à l'envers chez nous ont donné une vision d'Ozu qui était pas toujours juste, enfin qui couvrait pas en tout cas l'intégralité de sa carrière de cinéaste.
C'est quelqu'un qui a eu une production assez délirante puisqu'il a produit énormément de films entre les années 30 et les années 60. Et il a commencé par toute une partie de cinéma muet. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cette époque du muet d'Ozu ? Quel type de film ?
Alors justement, quand il arrive à la Shochiku, il y a une anecdote assez célèbre où on lui demande les films qu'il aime et il cite des polars, des comédies américaines, des choses vraiment très joyeuses, très sautantes. Et c'est vrai que ces films muets sont un peu comme ça, des films insouciants, joyeux, avec l'image d'une ville qui n'est pas du tout celle qu'il a filmée à la fin, puisqu'on est avant-guerre. Donc c'est quasiment des plans de campagne. Hein. C'est un Tokyo campagnard qu'on voit dans ces films-là. Et toujours ce côté malicieux des enfants, mais qu'on retrouvera aussi plus tard, même jusqu'à Bonjour.
Il y a une influence américaine sur le cinéma japonais des années 30. Et est-ce qu'on peut le voir aussi chez d'autres cinéastes ? La trace de cette influence du cinéma américain. Le cinéma japonais dans les années 30 est majoritairement influencé par l'Amérique.
Alors pour le coup, concernant Ozu, oui, puisque les films muets conviennent de la période muette, hein, parce que Ozu a surtout œuvré dans le muet, en effet. Donc, comme Rien le disait, on connaît nous les derniers films parlants, mais il a surtout fait du cinéma muet. C'était du cinéma sous influence, donc des films de gangsters influencés par ceux produits par la Warner, avec des poursuites de voitures, des mouvements de caméra, des travelling, etc. Et donc, il y a en effet du cinéma américain qui sort au Japon à l'époque, hein, fin des années 20, début des années 30, en masse. Et oui, il y a indéniablement sur le cinéma japonais muet, donc de l'époque, une influence du cinéma hollywoodien.
La majorité des films d'Ozu a été tournée en studio. Quelle est la spécificité du mode de tournage des films d'Ozu ?
Alors Ozu, c'est vraiment en effet un cinéaste de studio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit comme un super auteur, mais aux yeux de la Shochiku, c'est un cinéaste parmi d'autres, c'est un employé de studio. C'est-à-dire que le cinéma japonais dans les années 20, elle se constitue vite en une industrie qui est tenue de produire une quantité astronomique de films par an, hein, plusieurs centaines. Ozu est un cinéaste parmi d'autres qui travaille à la Shochiku, mais en face, il y a d'autres studios concurrents comme la Toho, la Nikkatsu, etc. Et donc, Ozu, il est tenu de tourner 1 à 3 films par an, mais comme tous ses collègues. C'est plus tard après-guerre que parce qu'il est devenu un cinéaste qui rapporte beaucoup d'argent à la Shochiku, qui va pouvoir moins travailler faisant seulement un film par an. Mais dans les années 30, il en tourne beaucoup parce que c'était le système industriel de production des grandes compagnies japonaises qui ressemble beaucoup à la façon dont Hollywood travaille. C'est ce système-là qui fait que les cinéastes enchaînent les films parce qu'ils sont employés d'un studio.
Il y a une période où ils tournent moins qui est la période de la guerre. Qu'est-ce qui se passe pour Ozu pendant la Seconde Guerre mondiale ? Adrien Gombeau.
Oui, ça m'a toujours frappé. Ozu, comme beaucoup de Japonais de sa génération, a fait la guerre. C'est-à-dire qu'il a été mobilisé, il est parti en Mandchourie. On l'a retrouvé ensuite à Singapour. Il a été brièvement prisonnier à la Libération. Donc c'est pour ça qu'il ne tourne pas, parce qu'il est tout simplement pas au Japon. Et il va revenir au cinéma après et filmer un Japon complètement bouleversé, puisque le Japon n'est plus l'Empire. Le Japon redevient une île, un archipel. Et les Américains occupent ce pays. Donc il a connu un Japon avant-guerre. Il est allé faire la guerre, il est revenu, c'était un autre Japon après deux bombes qui ont vraiment rasé, et plus Tokyo qui a été rasé par les bombes incendiaires américaines.
Ah, anna toko de asondoru yo.
ちゃん、あんた大きくなったら何になる？あんたもお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになる子らおばあちゃんおるかの？
On écoute un extrait de Voyage à Tokyo, le film d'Ozu de 1953 que j'évoquais en introduction. C'est une scène de dialogue entre le personnage de la grand-mère et son petit-fils. Ils sont en train de jouer à l'extérieur et elle demande ce qu'il veut faire plus tard et il ne répond pas. Il y a quelque chose qui se joue là dans cette scène qui est un des thèmes de prédilection d'Ozu, qui est celui du rapport entre les âges et notamment entre les générations. Est-ce que c'est vraiment une problématique importante chez lui ?
On associe souvent Ozu, en effet, au motif de la famille. Voilà, et il se trouve que au Japon, longtemps, trois générations vivaient sous le même toit, les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Et donc la façon dont Ozu va filmer ses familles au lendemain de la guerre, au moment où le Japon est en train de muter, en train de changer, on a l'impression qu'à travers toute la filmographie d'Ozu d'après-guerre, on comprend les bouleversements sociétaux du Japon, alors qu'Ozu se contente de filmer ces familles-là. C'est un cinéaste d'intérieur et pourtant on a l'impression de comprendre ce qui se passe au Japon, c'est-à-dire que tout d'un coup des trois générations qui ne regardent plus dans la même direction, voire qui ne parlent plus la même langue.
Puisque tout se passe donc à Tokyo, donc la capitale japonaise, et on voit donc ce couple de personnes âgées circuler dans la ville, découvrir la ville et la visiter vraiment comme des touristes.
Oui, il y a une scène très belle où ils montent sur le toit d'un supermarché avec cette jeune femme qui n'est pas leur fille, qui est la femme de leur fils qui est mort à la guerre et qui prend un petit peu de temps pour ces deux personnes âgées, alors que les enfants n'ont plus du tout le temps de s'occuper de leurs propres parents, et ils montent sur ce toit de supermarché. Et les grands-parents demandent « Mais où habite notre fils ?» Et elle pointe une direction assez aléatoire. « Et où habite notre autre fils ?» Et elle pointe une autre direction. Et on voit cette immensité de cette ville et ces personnages tout petits dans ce dédale qu'est Tokyo. Et là, on s'identifie complètement à eux face à cette merde d'immeubles et ces gens qui sont vraiment perdus dans leur époque. Donc oui, effectivement, je pense que c'est le thème, en tout cas, de cette partie de son œuvre. C'est comment la ville et comment l'époque va casser un modèle familial qui ne va plus jamais exister. Mais ce qui est très étrange, c'est que Ozu lui-même n'a jamais fondé de famille. Il s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant, il a vécu avec sa mère. Et donc, il parlait de quelque chose qu'il n'avait pas connu, qu'il n'avait peut-être pas voulu connaître, qui allait disparaître, alors que lui-même n'avait pas fondé cette famille-là, comme si c'était quelque chose qui était devenu impossible pour lui dans le Japon de l'après-guerre.
Est-ce qu'on peut remarquer chez lui une forme de critique de ce mode de vie japonais, ou est-ce qu'il s'en cantonne quelque part au constat ? Adrien Gombeau.
Je pense qu'il y a quelque chose du constat, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à dire Ozu, cinéaste universel, etc. C'est vrai, mais en même temps, il filme avec beaucoup de tendresse ce nouveau monde qui apparaît. On voit c'est cette télévision qui va jaillir dans les foyers. Dans Bonjour, il y a ces scènes savoureuses hein, sur ces enfants qui veulent absolument avoir la télévision en couleur. Et puis, c'est salaryman aussi. On voit l'arrivée d'un mode de vie différent où il y a ces hommes en cravate qui sortent du métro en groupe et qui est encore d'ailleurs, qui sont encore des images qu'on peut voir quand on va à Tokyo aujourd'hui. Hein, ce monde-là a finalement peu changé. Les femmes qui se mettent à travailler, qui se mettent à admirer des stars comme Jean Marais, tout ce monde-là émerge et il voit ça, je pense, sans le critiquer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vraie tendresse pour ce nouveau monde et en même temps une mélancolie pour un monde qui est en train de disparaître.
J'ai trouvé que Voyage à Tokyo, en particulier, posait une question que j'ai trouvée assez actuelle, qui était que faire de ces personnes âgées ? Et c'est vrai que c'est un film qui n'arrête pas de se poser la question, mais en sourdine. On se demande à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce couple de grands-parents ? C'est-à-dire qu'il faut les occuper, les emmener au théâtre. Et qu'il y avait quelque chose là de l'ordre d'une forme de mélancolie qui était vraiment particulière.
Oui, puis ces personnes âgées aussi se demandent quel est leur rôle vis-à-vis de ces enfants qui maintenant sont indépendants, qui vivent de leur côté. Donc il y a que faire des personnes âgées et que faire aussi de nos enfants. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement ces personnes âgées dans les films d'Ozu. Souvent, le père est joué par Chishu Ryu, qui n'est pas âgé. Enfin, c'est un homme maquillé en personne âgée, mais il n'a pas pris des acteurs si âgés que ça pour jouer des personnes âgées. Et j'ai jamais vraiment compris ce qui le poussait comme ça à faire jouer des personnes âgées par des acteurs qui ne l'étaient pas.
Les acteurs d'Ozu, ils reviennent souvent, sont souvent les mêmes acteurs, la même distribution, enfin, en tout cas dans les 10 films de la rétrospective. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait d'utiliser les mêmes acteurs ? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez beau, on les voit vieillir notamment.
Ce qui est assez incroyable chez Ozu, c'est que contrairement à d'autres cinéastes qui lui étaient contemporains, il s'était constitué une famille de cinéma. C'est-à-dire que, comme Adrien Gombeau le disait, il avait lui-même pas de famille. Donc c'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à la Shochiku, son studio d'adoption où il a fait à peu près tous ses films à partir de la fin des années 20. Et il a peu à peu constitué une famille de cinéma, c'est-à-dire des techniciens, un chef opérateur, un chef déco et puis des comédiens qui étaient là de tous ses projets. Voilà. Et donc, en effet, quand on regarde la filmographie, quand on observe la filmographie d'Ozu d'après-guerre, on voit tout le temps les mêmes têtes. Voilà. Et il faut savoir que dans un film comme Voyage à Tokyo, absolument tous les comédiens qu'on voit, même ceux dans des petits rôles, sont de très grandes vedettes. Vraiment, parce que Voyage à Tokyo, c'est un des gros budgets de l'année 53. C'est-à-dire qu'Ozu, c'est un cinéaste qui marche à l'époque au Japon, et c'est un cinéaste de studio, donc tous les intérieurs qu'on voit dans ces films sont reconstitués en studio. Et tous les acteurs qui sont là sont des vedettes qui coûtent cher. Et donc Ozu, comme ça, voulait tel et tel acteur, notamment Shichō Ryu, qu'Adrien Gombeau vient d'évoquer, mais aussi Setsuko Hara, qui était un peu sa muse, hein, son actrice favorite de sa période tardive, et tant d'autres acteurs, mais tous se bousculaient pour faire partie de la famille de cinéma d'Ozu. Et donc c'est intéressant de se dire que le cinéma d'Ozu d'après-guerre contient l'essentiel des grandes vedettes du cinéma japonais de l'époque, de l'âge d'or des studios.
Est-ce qu'on a des informations sur la manière dont il dirigeait les acteurs ?
Alors, on sait, parce que, alors, il se trouve que, contrairement à une idée répandue, Ozu, c'est un cinéaste où il y a beaucoup de documentation. C'est-à-dire qu'il y a des interviews, il y a des journaux intimes, il y a des documentaires au Japon, il y a un musée, enfin voilà. Ozu, c'est pas, en tout cas au Japon, quelqu'un dont la parole est rare. Et il y a aussi des gens qui sont toujours là pour témoigner. Dans Voyage à Tokyo, il y a une actrice qui s'appelle Kyoko Kagawa, qui est toujours parmi nous, qui continue de tourner. Elle avait 22 ans à l'époque de Voyage à Tokyo. Elle en parle très volontiers. Voilà, le fait est que, oui, on sait que Ozu chronométrait ses prises, avec un chronomètre, voilà, hein, c'était à la seconde près, et qu'il faisait refaire encore et encore et encore. Voilà, il voulait apparemment, après on n'était pas là, mais que les acteurs en fassent le moins possible.
Un des bruits qui court autour du cinéma d'Ozu aussi, c'est la question de la banalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui filme des scènes plutôt banales. Avec l'idée sous-entendue, c'est drôle parce qu'on faisait une émission lundi sur Raymond Carver, le nouvelliste américain, et c'est un peu la même problématique, quelque chose de l'ordre de, on dit il ne se passe rien, mais en fait quand on regarde dans le détail, c'est une succession de petites actions. C'est quand même finalement assez actif.
Oui, bah bien sûr, sinon ce serait ennuyeux. Enfin, moi je pense qu'on ne s'ennuie jamais devant les films d'Ozu, et si cette rétrospective marche si bien, c'est que les gens prennent vraiment du plaisir et qu'il se passe des choses. C'est une erreur de penser qu'un film d'Ozu, c'est juste deux personnes sur une chaise qui parlent. C'est ça son grand talent, et le fait que à peu près tous les cinéastes sont confrontés à Ozu à un moment ou à un autre, puisque même si vous êtes un cinéaste de films d'action, même si vous êtes Luc Besson, à un moment ou à un autre, va bien falloir que vous filmiez deux personnes qui parlent, et dans un échange qui va faire avancer l'action et évoluer les choses. Et c'est en ça qu'il est universel. Ozu, si vous voulez, là nous sommes en train de parler à la radio, puis des gens nous écoutent en train de préparer leur déjeuner ou d'aller au travail dans leur voiture, et lui il filme ça absolument merveilleusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'il y a des échanges entre les générations, comme on le disait, que ces dialogues nous parlent du Japon, nous parlent de choses beaucoup plus grandes que la trivialité de ce qui est filmé. Donc non, il ne faut pas dire que c'est la banalité, mais plutôt le quotidien. Et c'est ça qui nous touche, c'est que finalement le quotidien de ces gens, vous parliez tout à l'heure de la question des personnes âgées, c'est notre quotidien aussi. C'est-à-dire qu'on est éloigné dans le temps et dans l'espace de ces personnages, mais on est touché infiniment par ce qui leur arrive, parce que c'est le quotidien, et c'est un quotidien qui dépasse justement, on disait tout à l'heure, les grands films de samouraï, etc., qui n'ont aucun rapport avec nous. Là, c'est un quotidien japonais, mais qui est aussi le quotidien de nous aujourd'hui en France en 2018.
La question des images, c'était plutôt une question de l'attitude du regard. C'est-à-dire, si on voit les films d'Ozu, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a un regard très très chaleureux. C'est-à-dire qui aime profondément ce qu'il y a devant sa caméra. Eh bien, on sait aussi que c'est quelqu'un qui travaille avec des moyens très limités et tout ça. Mais il me frappe de plus en plus que c'est pas du tout important qu'il a seulement un objectif ou un seul angle ou caméra fixe, mais qu'on parle pas assez ou qu'on oublie ce que c'est l'attitude du regard. Et que le problème peut-être aujourd'hui, c'est plutôt qu'on se prépare plus à regarder quelque chose.
C'est la voix de Wim Wenders sur France Culture, une archive de 1985 qui parle de la grammaire limitée d'Ozu et de l'attitude du regard qu'il avait. Une des particularités de la dernière période des films d'Ozu qu'on voit dans cette, rétrospective, c'est l'usage assez massif qu'il fait du plan fixe. Comment expliquer cet usage-là, Adrien Gombeau?
Il est venu à ça petit à petit, hein, comme on le disait au début, ses premiers films ne sont pas tournés du tout en plan fixe. Et plus il a avancé en âge, plus il a avancé dans son cinéma, plus il en est venu à n'adopter plus qu'un seul objectif, l'objectif 50, et à poser sa caméra à hauteur de tatami, qui est donc la position de la famille quand vous êtes assis par terre au Japon. Et il y a quelque chose de fascinant, effectivement, qui crée la mythologie d'Ozu également, d'aller vers cet ample dépouillement qui fait que la figure d'Ozu d'ailleurs se superpose avec tous nos fantasmes sur le zen, sur ce Japon un peu mythique comme ça où une calligraphie faite de deux traits devient une œuvre d'art. Je sais pas comment Ozu lui-même vivait ça, mais je pense qu'il allait vraiment vers quelque chose d'essentiel et qui ira jusqu'à la fin de sa vie puisqu'il va mourir le jour de son anniversaire de ses 60 ans et sur sa tombe à Kamakura, c'est un simple bloc de pierre avec un seul caractère où il y a marqué néant. Et donc il est allé au bout de cette démarche absolument fascinante dont parle très bien Wim Wenders, sachant que sur cette tombe, il y a toujours des gens pour mettre aussi des bouteilles de saké, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus croire que Ozu vivait en ascète. Hein. On sait très bien comment il a écrit Voyage à Tokyo. Il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel avec son scénariste et puis on a retrouvé 50 bouteilles de saké, des bouteilles de bière et un scénario au bout de plusieurs jours. Donc je pense que ce n'était pas quelqu'un de fondamentalement zen et triste et mélancolique. Mais il y a cet aspect-là du dépouillement petit à petit alors qu'il avançait dans son cinéma qui rend les choses effectivement fascinantes.
C'est une manière aussi de passer la société japonaise au scalpel, enfin, comme on dit, ou une certaine manière d'ausculter, d'avoir les plans fixes, comme ça, qui posent le décor.
Je suis pas sûr qu'il passait la société au scalpel. Mais je pense juste que c'était tout simplement le regard le plus organisé possible. L'objectif 50, on dit souvent que c'est un objectif qui correspond à l'œil humain, mais c'est surtout un objectif qui ne déforme rien. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'objet, si vous prenez un objectif très large, au bout d'un moment, il va y avoir des formes un peu tordues, des choses comme ça. L'objectif 50, il arrive à une pureté de regard où tout est droit, tout est exactement, parfaitement organisé. Je pense que c'est ce qui lui permettait de dire le plus clairement possible ce qu'il avait à dire sur les relations entre les hommes, les femmes, les générations, etc.
Wim Wenders, dans l'archive qu'on vient d'entendre, il parle aussi d'une grammaire limitée du cinéma japonais, enfin en tout cas du cinéma d'Ozu. Est-ce qu'on peut dire que c'était le cas?
Il avait sa propre grammaire, c'est indéniable, et c'est en ça, je pense, même un cinéaste essentiel pour comprendre ce qu'est le cinéma, en ce sens où ça a été un des grands formalistes de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que Ozu fait partie de ces quelques cinéastes qu'on reconnaît immédiatement, c'est-à-dire que vous regardez un film d'Ozu, vous pouvez même enlever le son, et là vous reconnaissez tout de suite. Il y a combien de cinéastes peuvent prétendre à ça? Donc Ozu avait inventé quelque chose, il avait sa propre grammaire. Alors limitée, je ne sais pas, je pense qu'elle est au contraire très complexe d'ailleurs, cette apparente simplicité, parce que c'est quand même peut-être le cinéaste souvent qu'on associe aussi à une certaine forme de simplicité, mais le fait est que si on commence à dépouiller cette fameuse grammaire, c'est vertigineux, c'est-à-dire que c'est un système formel absolument unique dans l'histoire du cinéma, qui fait que c'est un des grands cinéastes du XXe siècle, indéniablement.
Dans Tokyo Ga, il y a cette scène géniale où Wenders justement va voir le chef opérateur d'Ozu et il parle de cet objectif 50 et l'autre lui raconte qu'ils sont en train de tourner une scène, je ne sais plus sur quel film, et le chef opérateur ose lui dire « Maître, vous devriez plutôt mettre un objectif 35 pour cette scène ». Ozu dit « Très bien, faites, mets l'autre objectif ». Ozu regarde dans l'œil ton, dit « Vous avez raison, c'est beaucoup mieux avec cet objectif-là. Remettez l'objectif 50 ».
これは何ですか?ハモでしょう。ハム?いえ、ハモ。ああ、ハモ。 なるほど、結構なもんですな。ハモか。魚辺に豊かか。ハモか。
先生、いかがです。
あ、ビールですか。はい、どうも。
どうぞ。しかし先生、お嬢さんと二人じゃお寂しいですな。
はい、もう慣れました。長いことで娘はどう思うとるか知りませんが、いや今日は皆さんのおかげでもう十分いただいて。
まあまあ、どうぞ。
あ、これどうも。
Un extrait du Goût du Saké, 1962, le dernier film d'Ozu. C'est une scène de table. Et les scènes de table, elles sont assez capitales chez Ozu. Des moments où les gens mangent, où les gens boivent. Comment expliquer la particularité, enfin cette prédilection qu'il avait pour la scène de table, hormis le fait que, par ailleurs, il aimait bien le saké?
Alors, je pense que ça a à voir avec ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce monde qui est en train de changer, ces habitudes, ces nouvelles formes de vie qui arrivent avec l'occupation américaine. Et il y a quelque chose qui reste du Japon qui va être la cuisine. On voit très bien ça dans Le Goût du Riz au Thé Vert, notamment, où on a ce personnage qui, effectivement, voit toutes les valeurs familiales s'écrouler, une sorte de mépris également qui s'instaure pour ces gens qui restent attachés à une culture ancienne qui disparaît. Et que reste-t-il, finalement, du vrai Japon campagnard? Le Goût du Riz au Thé Vert, ou Le Goût du Saké. Donc je pense qu'il y a ça qui se joue dans les scènes de table, et aussi le plaisir, je pense, qu'il avait effectivement lui-même à boire et à manger.
C'est une scène aussi où il y a des personnages qui appartiennent plutôt à la bourgeoisie et qui revoient un ancien camarade qui était un camarade de classe et qui appartient à un milieu populaire. Mmh. Et il s'en va parce qu'il est ivre et les bourgeois restent entre eux, en gros. Et il y a quelque chose de l'ordre du mépris de classe là qui s'exprime aussi. Est-ce que les rapports de classe étaient aussi quelque chose qui intéressait Ozu?
Ah, je crois, oui. Enfin, en tout cas, très clairement, dans ce film-là, c'est même un film dont c'est le sujet, c'est-à-dire Le Goût du Riz au Thé Vert. C'est une pratique qui consiste à mettre du thé dans le riz pour finir les derniers grains. Et c'est comme mettre du vin dans votre soupe ou quelque chose comme ça. Mais lui ne juge pas, n'éprouve pas ce mépris de classe du tout. C'est-à-dire que ce personnage-là est l'incarnation d'un Japon ancien et authentique. Et dans ce film-là, on voit aussi d'autres pratiques arriver, d'aller manger des gâteaux occidentaux, etc. Quoi. Donc la nourriture devient le symbole même du temps qui passe sur cet archipel.
Pascal Alex Vincent, avant l'émission, on parlait du fait que la réception de Zou aujourd'hui était assez importante, et notamment dans la rubrique des travaux universitaires. Comment expliquer ce succès de Zou, ce succès critique?
Il se trouve qu'aujourd'hui, Zou, c'est le cinéaste japonais le plus commenté. C'est-à-dire que il y a encore 20-30 ans, Mizoguchi, c'était un peu le grand cinéaste classique star. Et donc aujourd'hui, voilà, Zou est absolument partout, mais ça vient du fait que c'est une découverte tardive. C'est-à-dire que si on prend les grands cinéastes japonais, Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, ils ont été reconnus en Occident de leur vivant, ce qui n'est pas le cas d'Ozu. Et on se rend compte qu'il y avait un génie, l'histoire du cinéma, et qu'il nous était caché. Et donc forcément, c'est un plaisir. C'est comme quand on ouvre un coffre plein de trésors, comme ces 10 films qui sont actuellement à l'affiche. C'est-à-dire que voilà, on se rend compte que comment a-t-on pu passer à côté de ça? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2018, les gens se précipitent sur cette œuvre qui semble-t-il est inépuisable.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci Pascal-Alex Vincent. Je rappelle le dictionnaire des cinéastes japonais qui est publié aux éditions Carlotta. Et merci Adrien Gombeau. On peut dire qu'à la rentrée va sortir une édition augmentée de votre livre Tokyo mis en scène aux éditions Espace et Signe. Et on peut voir les 10 films de Yasujiro Ozu en salle depuis le 1er août. France Culture, il est 13h17 et on vient d'écouter le groupe Altin Gun.
France Culture, la grande table d'été, par Romain de Bec de Lièvre.
Un étudiant retourne dans sa ville natale. Il retrouve là tout l'espace rural, les lieux de l'enfance, des vieilles connaissances et un père accro au jeu. Il a fini sa formation de professeur et veut devenir écrivain. Une caméra suit l'étudiant dans les rues, sur les chemins, sur les collines de cette région ensoleillée, puis brumeuse, puis enneigée. Les saisons se succèdent et quelque chose de la tragédie se noue. Bonjour Nouri Bilge-Ceylan, vous avez reçu la Palme d'Or en 2014 pour votre film Winter Sleep. Le Poirier Sauvage, votre dernier film, sort aujourd'hui sur les écrans.
Demek yazar olmak istiyoruz ha?
Var mı öyle pat diye hayale ulaşmak? Ya bir kere insan mesleğini sevince her yerde, her şartta yaşayabiliyor bence.
İyi bir yazar dediğin şikayet edip durmaz. Oturur yazar kardeşim. Şartlar nasıl olursa olsun.
Yakınlarını ihmal etmek, hatta gerekiyorsa kullanmak, meze yapmak basit. Şaşırdım bak şimdi. Kim peki?
Tanımaz.
Senin için normal değil diyenler, hatta deli olduğunu ima edenler bile oldu. Allah belalarını versin. İnanmadım hiçbirine.
Nouri Bilge-Ceylan, à l'origine du film, il y a une rencontre avec un jeune homme. Est-ce que de votre dernier film, Le Poirier Sauvage, il était lié à l'idée de faire le portrait d'un jeune homme.
Aslında Akın'ın babasıyla tanışmam demeyeyim de bir köyde rastlayıp tekrar konuşmam ve köylülerle ilişkisine tanık olmam sonrasında babasıyla bir film yapmak düşüncesi vardı başlangıçta.
Au départ, mon idée n'était pas de faire un film sur le jeune homme, mais sur le père que je connaissais, et qui est un personnage réel, qui vit dans un village, et il s'agissait des relations de ce père avec les villageois. Donc au début, le film était axé sur le père, le projet.
Akın'la babası hakkında daha fazla bilgi toplamak için buluşmuştum aslında. Ama Akın'la tanıştıktan sonra zaten gençlerle ilgili bir film de yapmak istiyordum. Oğlunu da işin içine katmaya karar verdim.
Au début, j'ai rencontré Akın, le jeune homme, de façon à ce qu'il puisse me communiquer le plus de renseignements possible par rapport à son père. Et en partant de là, s'est développée l'idée de faire un film beaucoup plus axé sur le jeune homme, puisque de toute façon, depuis très longtemps déjà, je voulais faire un film concernant la jeunesse.
Est-ce que c'est la première fois qu'une rencontre a donné lieu à un film pour vous ?
Yo, bütün filmler böyle doğar aslında. Tesadüfler sonucunda.
Non, yeah. Parce que tous les films naissent de cette manière. C'est une rencontre due à une multitude de hasards.
Yani çok analitik olarak ben böyle bir film yapmak istiyorum. Öyle değil yani. Hayat öyle değil. Sürüklenirsiniz. Bir rüzgar eser. Film yapma düşünceleri öyle doğar hep.
Ce n'est pas une approche analytique, rationnelle. C'est comme le vent qui souffle et ensuite vous êtes poussé par ce vent. Fikirler, et le projet prend forme.
Gariptir yani. Bir akarsuyun oluşması gibidir. Oradan buradan damla damla sular gelir. Sonra onlar bir araya gelirler, bir dere oluştururlar, küçük bir dere. Sonra o dereler birleşir, bir çay, orta bir nehre dönüşürler ve denize dökülür sonuçta.
C'est un peu comme la naissance des fleuves. Au début, goutte par goutte, ensuite plusieurs petits ruisseaux qui se rejoignent, un fleuve, une rivière, exactement la même chose qui est valable pour un film et l'élaboration d'un film.
On insiste souvent beaucoup sur la durée de vos films. Vous vous retrouvez au moment du montage avec une matière cinématographique extrêmement vaste, énorme. Est-ce que ça fait partie aussi de ce mouvement de fleuve que vous décrivez?
Yok, öyle değil ama bu filmin senaryosu bugüne kadar yazdığım en uzun senaryoydu. Kış uykusundan çok daha uzun bir senaryoydu. O yüzden kış uykusundan da uzun bir film çıkabileceğini de düşünüyordum.
Au début, effectivement, le scénario était très long, encore plus long que l'autre film, que mon dernier film, Winter Sleep, que j'avais fait. Et donc, c'est pas vraiment en rapport avec la métaphore des fleuves, des rivières ou des ruisseaux, mais c'était le plus long scénario que j'ai eu à travailler.
Ben piyasanın beklentilerine göre film yapan biri değilim, çünkü uzun bir film aslında dokuz köyden kovulan bir şeydir endüstri içerisinde. Kimse sevmez uzun filmi.
Je ne suis pas quelqu'un qui fait des films en fonction des attentes du marché, je ne l'ai jamais été. Il y a un proverbe chez nous qui dit que celui qui dit la vérité est mis à la porte de 9 villages différents. Et c'est la même chose, un film long, l'industrie du cinéma a horreur de ça.
Bu filmin de ilk montajı aslında 4,5-5 saat civarındaydı. Ama hep öyledir. Yani tabii ki kaba kurgu böyleydi. Sonra demlendikçe ki bir yıl sürdü kurgu. Kendime göre optimum uzunluk olarak bunu belirledim.
Et au début, le premier montage brut que j'avais obtenu était d'une durée de 4h30 à 5h. Et ensuite, il fallait purifier, distiller ce premier montage brut. Ce que j'ai fait, ça a duré un an, de manière à avoir sa durée optimum.
Votre film suit l'itinéraire de Sinan, un jeune homme qui retourne dans son pays natal, dans sa ville natale. Et est-ce qu'il y avait l'idée dans ce film-là, Le Poirier Sauvage, de suivre ce jeune homme comme un chemin?
Evet, Sinan'ın bir dönemini çektik aslında. Sinan'ın okuduğu şehir aslında ailesinin yaşadığı yere çok uzak değil. Yani yaklaşık bir saatlik bir mesafede.
On est parti sur une période de la vie de Sinan, puisque la ville où Sinan avait fait ses années de faculté n'est pas trop loin, juste à une heure de distance, de la ville, enfin du bourg où vivent ses parents.
Yani hafta sonları, iki haftada bir, üç haftada bir zaten kasabasına üniversiteyi okurken de muhtemelen uğrayabileceği bir mesafede yani.
C'était à une distance qui lui permettait, éventuellement chaque week-end, ou une semaine sur deux, une semaine sur trois, de revenir dans le bourg où vivent les parents.
O nedenle de yani aile, hani geri dönüşü aile için çok önemli bir olay olmuyor. Sadece üniversiteyi bitirmiş ve yeni kararlar alması gereken bir durumda olduğu için bu dönüşü farklı.
Là, le retour est différent, non pas parce qu'il retourne, parce qu'il arrêtait pas de retourner voir ses parents. Là, le retour est important, puisqu'il vient de finir ses études, il est dans l'obligation de prendre de nouvelles décisions, et c'est en ce sens que ce retour-là compte.
La première image de votre film, on voit donc ce personnage, Sinan, qui est à la terrasse d'un café, et il est derrière la vitre d'un café. Et on voit les vagues de la mer se refléter sur le visage de ce personnage. Et j'ai eu l'intuition que cette question-là du personnage et du paysage était immédiatement présente dès le début de ce film. Que tout l'un des enjeux du film important était la question de comment un personnage s'inscrit dans un paysage. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté pour vous ?
Değildi. O kadar değildi. Yani muhakkak ki hani kültürün bir parçası oluyoruz ama daha çok manzaranın değil. Yani ilk planda düşündüğüm şey öyle bir şey değildi.
C'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé en premier. C'était pas un élément déterminant. Oui, on fait partie le paysage, non, c'était pas une partie intégrante, dominante, essentielle de ce que je voulais faire. La culture beaucoup plus.
Şehir ve kasaba, yani Sinan'ın ailesini yaşadığı kasaba ve şehir arasındaki seçimlerim daha çok şeye dayanıyordu. Yani kentin bir deniz kenarı kenti olmasına özellikle dikkat ettim. Çünkü yine de deniz kenarı olması çok yakın olsa bile çok şeyi değiştiriyor Türkiye'de.
Alors, il y avait la ville, il y avait le bourg, et j'ai surtout voulu que la ville soit une ville en bord de mer. Le fait que la ville, que la mer soit proche, change beaucoup de choses chez nous, en Turquie.
Qu'est-ce que ça change?
Deniz kenarındaki kentle denizden 100 kilometre içeride bir kasaba arasında çok büyük fark var, kültürel açıdan.
D'un point de vue culturel, il y a énormément de différences entre une ville qui se trouve en bord de mer et une ville, une autre ville qui serait, disons, 100 kilomètres à l'intérieur des terres. Énormément de différences culturelles.
Çok daha sert kuralların yaşadığı bir kır haline geliyor iç kesimdeki yer. Çünkü deniz kenarındaki yer turistlerle temas ediyor, halkı yumuşatıyor bu temas. Oradan gelip geçen çok oluyor. Yani oradaki kültür çok daha yumuşamış, dışa açık, o kadar katı kuralların olmadığı bir yer haline geliyor anında.
Quand la ville est en bord de mer, elle devient, c'est une ville beaucoup plus douce, qui est ouverte vers l'extérieur. Il y a les touristes, donc les mêmes règles dures ne s'y appliquent pas. Et les mêmes conditions ne sont plus valables. Ça change avec tout cela. Comparé à une ville située à l'intérieur des terres.
Yani deniz kenarındaki kentte üniversiteyi okuyan çocuk, kasabasını beğenmeyebileceği çok daha fazla şeyle karşı, modellerle karşılaşıyor ve hayal gücü daha çok tetikleniyor.
Le jeune qui a fini ses études dans une ville en bord de mer et qui revient dans son bourg d'origine, d'un seul coup découvre des modèles culturels qu'il apprécie beaucoup moins. Et ça a un effet, ça aiguillonne son imaginaire, son sens de l'imaginaire, de l'imagination.
Le jeune Sinan, c'est aussi un personnage qui a pour ambition de devenir écrivain et qui passe une grande partie du film à essayer de publier son premier livre. Déjà dans Winter Sleep, la figure de l'écrivain, ou en tout cas de quelqu'un qui a le désir d'écrire, était déjà présente. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de filmer le désir d'écrire ?
Yazar olma şeyi tabii bir kere gerçek. Karakterimiz de öyleydi. Biraz o gerçek şeyden de esinlenerek filmi yazdığımız için. Tabii bir de yazar olmak mutlaka tutkuyla olması gereken bir şey değil. Yani biz gencin gerçekten edebiyata karşı büyük bir tutku besleyip beslemediğini çok bilmiyoruz. Ama daha çok belki de bu kaderini değiştirmek için kendisinde potansiyel gördüğü bir olasılık olarak da yaklaşmış olabilir.
Vouloir devenir écrivain, c'était déjà quelque chose qui existait dans le personnage réel duquel je me suis inspiré pour faire le film. Mais devenir écrivain, c'est pas forcément lié à une passion. Il n'est pas obligatoire d'avoir une passion envers la littérature pour vouloir devenir écrivain. Et dans le cas présent, ça peut tout simplement être un potentiel, une opportunité, la seule voie éventuellement, pour essayer de changer son destin.
Il y a toute une scène où il a un dialogue avec un écrivain dans une librairie, où il discute d'énormément de choses et de la question notamment de la représentation du monde rural en Turquie. Et on l'entend développer un certain nombre... C'est quelqu'un qui a des idées extrêmement arrêtées sur la littérature. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ces réflexions-là? Quelque chose qui serait de l'ordre de l'élan romantique de la jeunesse?
Tabii ki her sahnede olduğu gibi her şeyi ortaya çıkarmaya çalıştım.
Comme dans chacune des scènes de mon film, j'ai essayé de développer et de montrer énormément de choses dans chacune des scènes.
Şimdi tabii yani o yazar direkt olarak Sinan'ın olmak istediği şeyi temsil etmiyor.
L'écrivain en question, dans le dialogue, dans le film, ne représente pas exactement ce que voudrait devenir Sinan.
Çünkü o yazar sadece yerel bir yazar, o bölgede birazcık tanınan ve Sinan'ın saygı duymadığı birisi.
Car l'écrivain en question est un écrivain local qui n'est connu que très peu dans la région où il vit et c'est quelqu'un envers lequel Sinan n'éprouve aucune forme de respect.
Ama Sinan kendisini ondan daha üstün buluyor aslında öz olarak. Fakat yine de onun kavuştuğu olanaklar karşısında kitabını kolaylıkla bastırabilmesi ve diğer olanaklar tanınıyor olması yine de yerel de olsa içinde bir tür adaletsizlik duygusu yaratıyor. Bu da şiddet ortaya çıkarıyor.
Ve Sinan ressent un sentiment d'injustice qui va se transformer en un sentiment de colère, de violence. Quelque part, il se sent supérieur à cet écrivain local, mais il jalouse malgré tout les opportunités, les occasions que celui-ci peut avoir dans différents domaines. Il peut éditer ses livres, il est relativement connu dans cette région, donc injustice, sentiment d'injustice et colère vis-à-vis de lui.
Bu da konuşmalarına sarkastik bir hava veriyor ister istemez.
Et dans la suite naturelle, c'est que son dialogue avec l'écrivain va devenir, qu'on le veuille ou non, sarcastique. Il va y avoir du sarcasme.
Comment vous les construisez, ces scènes de dialogue? Parce que les dialogues sont extrêmement importants dans votre cinéma. Et on est toujours à la lisière d'une forme de conflit, mais qui peut éclater parfois, mais n'éclate pas tout le temps.
Aslında tabii son birkaç filmimde bu diyalog meselesini biraz zorlamak istedim. Bir tür sinema üzerindeki bir takım dogmalara karşı bir tür başkaldırı anlamı taşıyordu benim için bu. Aynı zamanda.
J'ai voulu, lors de mes derniers films, un peu forcer cet aspect concernant le dialogue. Et c'était une sorte de révolte contre les dogmes du cinéma en général. De ma part.
Yani sinemanın diyaloğu özellikle de bu tarz diyaloğu çok sevmediği, sinemayı yani kötüleştirdiği ya da sinemanın özellikle görsel olabildiğince görsel olması gerektiği konusundaki dayatmalara karşı bir tür başkaldırı diyebilirim buna.
Je peux dire qu'il s'agissait d'une sorte de révolte justement contre le cinéma, qui ne voudrait voir le cinéma qu'à travers son aspect visuel et qui a tendance à réagir quand le dialogue est trop long, parce que le cinéma va penser que la longueur du dialogue joue forcément en défaveur du cinéma. Une révolte contre tout cela, oui.
Bir tür bir denemeydi benim için. Diyaloğu daha da kış uykusundan bile daha çok arttırırsam ne olur gibi bir şeyi merak ediyordum.
C'était une sorte d'essai pour moi. Je me suis dit pourquoi ne pas avoir un dialogue qui soit encore plus long que celui que j'avais dans Winter Sleep. C'était un essai.
Ama devamlı da böyle yapacağım diye bir şey yok. Bir anda yeniden eski daha sakin sinemaya da geri dönebilirim.
Mais cela ne veut pas dire que je vais continuer en ce sens. Je peux, d'un seul coup, retourner vers le cinéma que j'avais avant, qui était un cinéma, disons, plus silencieux.
Qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans le dogme, d'après vous? Dans les dogmes du cinéma?
Tehlikeli değil de, yani insanı sınırlayan bir şey. Yani bir takım şeyler sinemada iyi değildir, doğru değildir diye bir şey var. Eninde sonunda insanı sınırlayan ve iyi yapıldığında öyle olmadığını çok kere tanık olduğum bir şey var. İşte ne bileyim zoom kullanmak, efendim çok fazla diyalogla anlatmak gibi görselliğini karşı bir şey olarak not düşülmüş çeşitli yerlerde. İnsan kendi içinde bunun tersiyle ilgili olabilecek bir takım zevkler aldığında bunu deşmeden, daha ileriye götürmeden duramıyor. Çünkü diyalogdan çok zevk alabildiğimi görüyorum. İster edebiyatta olsun, ister sinemada, tiyatroda. Ve sadece bu zevkin peşine düşüyorum bir anlamda, dogmaları boş verip.
Le dialogue peut être enrichissant au cinéma, au théâtre et même ailleurs. Et j'ai voulu prendre plaisir à le faire. Vous disiez, est-ce dangereux, le dogme? Non, le dogme n'est pas dangereux, mais le dogme apporte des restrictions dans la mesure où on va vous dire, il est établi que certaines choses ne sont pas bonnes pour le cinéma. Mais j'ai été témoin de nombreuses reprises que quand c'était fait avec art, avec talent, certaines choses que l'on ne juge pas bonnes, qu'il s'agisse de zoomer ou qu'il s'agisse d'apporter beaucoup plus de dialogue, n'ont aucun aspect négatif et ne mettent pas en péril l'aspect visuel du cinéma. Et j'ai voulu essayer, je suis parti à la recherche du plaisir cinématographique en essayant justement de travailler sur le dialogue, mais qui n'est pas propre qu'au cinéma, qu'on peut retrouver ailleurs et qui peut être toujours aussi enrichissant.
Et un des éléments principaux et un des thèmes principaux du Poirier Sauvage, c'est la relation qui existe entre Sinan et son père, et sur la question principale de l'héritage. Comment vous avez travaillé cette matière-là avec les acteurs, cette idée que le fils qui hérite du père?
Vallahi hiçbir özel şey yapmadık. Yani sadece sezgilerimize baktık. Ben muhakkak kendi babamla ilişkimden çok faydalandım. Gerçek baba-oğul ilişkisine baktığım kadar kendi babamla olan ilişkimde. Çünkü benim babam da buradaki babaya çok benziyordu aslında. O da hayatının çoğunu kırsal kesimde geçirdi ve inandığı şeyler, değer yargıları çevresindeki insanlardan çok farklıydı. Bunun getirdiği çok derin bir yalnızlık söz konusuydu.
Je me suis, j'ai rien fait de spécial. Je suis parti à partir de mon ressenti. D'une part, il y avait le personnage réel duquel je me suis inspiré, mais je me suis également inspiré de mon propre père. Il y avait beaucoup de points communs. Donc, mon propre père vivait également dans un milieu rural et il avait des valeurs qui étaient différentes et des valeurs différentes qui n'étaient pas acceptées par son entourage. Et tout cela conduit de toute façon à une solitude profonde.
Et est-ce que vous diriez que dans cette relation entre le père et son fils se noue quelque chose qui relève de la tragédie?
Muhakkak ki herkes farklı bir şey trajik gelir insan, ama bana özellikle trajik gelen tarafı bu yalnızlık meselesi. Yani bir insan içinde nevrotik olanı, farklı olanı, kendisine suçluluk verecek bir tür farklılıktan bahsediyorum. Yani bunu bir olumlu bir şey olarak değil de olumsuz olarak algıladığı bir farklılığı olduğunu duyumsayan bir insanın katlanmak zorunda olduğu yalnızlık, babam örneği önümde olduğu için bana hep trajik gelmiştir.
Je pense toujours à l'exemple de mon père qui l'avait poussé à être à cette solitude qu'il a vécu. En ce sens, oui, tragique, il y a un côté tragique. Mais au-delà du tragique que chacun peut interpréter différemment, il y a surtout l'élément de la solitude, c'est-à-dire que pour des raisons névrotiques ou autres, cette différence que vous avez avec les autres finit par se transformer chez vous en un sentiment de culpabilité. Vous sentez coupable d'être différent. Et en ce sens, au-delà de la solitude, cela devient tragique.
Est-ce que cet élément de partir de vrais personnages ou d'une dimension parfois autobiographique, c'est aussi une certaine manière pour vous d'empêcher de faire de vos personnages des symboles, qu'on ne prenne pas pour des généralités, mais on a l'impression que chez vous, l'ambition, c'est plutôt de retracer des parcours.
Genelleştirme yapmıyorum. Yani onu sevmiyorum çok. Çünkü her durumun, her insanın iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Yani hatta bir insanın belli bir davranışı bir açıdan iyi olabileceği gibi bir açıdan kötü de olabilir. Birisine iyi gelebileceği gibi birisine kötü de gelebilir. O konuda nasıl sonuçlar yaratacağını çok düşünmüyorum. Sadece hani gerçeği göstermeye olduğu gibi çalıştığım zaman, çünkü belli bir gerçeğe ulaşmaya çalışırsanız, yani bu bunu temsil etsin, o zaman o karakterin davranışlarını ve sözlerini çok kısıtlamak zorunda kalırım.
Si vous voulez...
bu, çünkü bu laf onun oraya gitmesini engelleyebilir gibi gelir.
Si vous voulez montrer une réalité déterminée à l'avance, alors vous allez être obligé de vous imposer des restrictions parce que vous savez où vous voulez aller. Mais non, effectivement, j'évite les généralisations puisque chaque situation, chaque personne a un côté positif, un côté négatif. Chaque comportement, c'est exactement la même chose, peut avoir un côté positif et un côté négatif. Et j'essaye surtout de traiter des conséquences sans être dans l'obligation de montrer une réalité qui, comme je vous le disais, serait obligatoirement restrictive.
Ce que vous disiez tout à l'heure, l'importance de montrer plusieurs choses, en tout cas qu'il y ait une épaisseur dans chaque séquence. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de produire des personnages que finalement on ne peut pas juger ?
Yani... bu tabii seyredene bağlı. Bazıları bazı davranışlar için karakterleri yargılayabilir ama... karakterin de kendini savunabileceği bir alan açmaya çalışıyorum. Yani orada başka birisi o karakterin belli durumları yüzünden onu savunabilmeli de yani.
J'essaye d'ouvrir un espace où le personnage en question puisse éventuellement se défendre. Mais en fonction de celui du spectateur, de celui qui regarde le film, il peut y avoir un jugement évidemment. Mais je l'évite. J'ouvre un espace où il puisse assumer sa défense.
Yani birileri çıkıp belli bir şey için yargılayabilir ama önemli olan ben yargılamıyorum hiçbir şekilde.
Les autres peuvent le faire. Ce qui est important c'est que moi je ne juge pas, je ne les juge pas.
Anlamaya çalışıyorum hepsini. Yani en kötü şeyi yapsa bile onu anlamaya çalışmak benim görevim.
Même s'il fait le pire, mon rôle à moi c'est de toute façon d'essayer de le comprendre. Ma façon de le traiter dans le film.
Vous nous proposez une image à la toute fin du film où il y a deux alternatives, où il y a deux images qui seraient comme deux fins possibles du film. Comment cette idée vous est venue ?
Şimdi aslında tabii biz üç tane final yazmıştık. Ben bu üçünü de çektim bunların. Daha sonra kurguda çok uğraştığım bir bölüm oldu bu.
Il y avait trois fins différentes que j'avais filmées. Et effectivement, ça a nécessité beaucoup de travail au moment du montage. Que faire?
Aslında yazdığım iki ayrı finali biraz birbirine karıştırarak böyle bir çözüm buldum kendimce.
Et j'ai trouvé, d'après moi, une solution en prenant deux des fins que j'avais filmées et en les mélangeant entre elles.
Şimdi tabii varoluşçu felsefeye göre yeniden doğmanın yolu ölmektir. Kendini öldürmektir bir bakıma. Sıfır noktasına gitmektir. Biraz öyle bir anlamı var benim için.
Par rapport à une approche existentialiste, c'est-à-dire pour pouvoir renaître, vous devez d'abord mourir. C'est l'un des sens que l'on peut donner.
Gencin belli bir anlayış düzeyine yükselebilmesi için kendisini öldürmesi gerekiyordu bir bakıma bana göre.
Et pour atteindre un certain niveau de compréhension, le jeune devait d'abord, par rapport à lui-même, mourir en lui-même avant d'atteindre ce nouveau niveau.
Votre cinéma, et en tout cas dans Le Poirier Sauvage, n'est pas ce qu'on pourrait qualifier un cinéma social à première vue, mais on entend des échos d'une forme de réalité sociale qui est perçue de la Turquie contemporaine. Et est-ce que ça aussi, ça peut faire partie d'une certaine manière chez vous de ne pas dire les choses de manière frontale et nette?
Non. Yani... bir karakteri tüm gerçekliğiyle ortaya koymak isterken ister istemez arka planı da inandırıcı kurmak zorundasınız.
En traitant du personnage principal, vous êtes d'une façon ou de l'autre dans l'obligation d'apporter également l'arrière-plan qui va avec.
Et donc c'est l'idée de immerger le personnage en tout cas et aussi le spectateur dans ce contexte-là.
Öyle değil de yani Türkiye'de yaşanmakta olan durumu da inandırıcı çizmezseniz bir kere her şeyden önce Türk seyirci buna hemen tepki koyuyor detaylarda en ufak bir hata olduğu zaman.
Si vous ne reflétez pas d'une manière réaliste ce qui se passe ou ce qui se vit en Turquie, de façon à ce que les gens voient que c'est ça, déjà vous aurez un problème avec le spectateur turc qui ne s'y retrouvera pas.
Yoksa benim hani gerçek niyetim Türkiye'deki yaşanmakta olan durumu, Türkiye'nin içinde olduğu güncel durumu ortaya çıkarmak değil. Yani bu daha çok gazetecilerin işi.
Sinon, mon propos n'est pas de faire ressortir la situation contemporaine, actuelle, dans laquelle se trouve la Turquie. Là, ce serait beaucoup plus le rôle des journalistes.
Beni daha çok insanların iç dünyasında olup bitenler ilgilendiriyor. Çünkü bu konuda çok az şey bildiğimizi düşünüyorum hala.
Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce qui se passe dans le monde intérieur des personnages. J'ai l'impression que ça n'a pas été suffisamment traité jusqu'à aujourd'hui.
Yoksa zaten gazetecilerin kolaylıkla yapabildiği bir şeyi niye anlatmak isteyeyim, yapayım? Yani sanatın görevi onun çok daha ötesinde olmalı.
Ce ne serait pas le rôle de l'art. Le rôle de l'art est au-delà. Sinon, je vais pas. Ça n'aurait aucun intérêt que je me mette à raconter ce que les journalistes pourraient transmettre et raconter d'une manière beaucoup plus efficace et plus rapide.
Votre film est diffusé, va être diffusé un peu partout dans le monde. Est-ce que vous êtes attentif à la réaction du public et notamment du public étranger?
Yani merak ediyorum tabii nasıl tepki göstereceklerini. Çünkü söz gelimi bu filmin daha yerel olduğunu düşünüyordum. Ama başka ülkelerde de anlaşılabildiğini, bazı kimsenin çözemeyeceğini düşündüm. Kodları çözebildiklerini görünce de hoşuma gidiyor.
Effectivement, je voudrais le savoir. Ça m'intéresse de le savoir parce qu'au départ, j'avais l'impression que c'était un film qui avait une trame avant tout locale. Mais j'ai vu que ça correspondait également à certains codes qui étaient également valables dans d'autres pays. Donc ça m'intéresse réellement de savoir comment il va être reçu.
Merci, Nuri Bilge Ceylan.
Thank you very much. Merci.
Le Poirier Sauvage, votre dernier film, sort aujourd'hui sur les écrans. Merci à Oriane Delacroix, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Anne Toscan-Viudès et Anna-Livia Marchaison qui pensent et préparent cette émission avec moi. Lisco m'était à la réalisation et aujourd'hui au son, c'était Anthony Thomasson. Pour réécouter la grande table d'été, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Ce soir à 18h20 dans Du Grain à Moudre, qui veut la peau du ministère de la Culture? Mélanie Chalandon se posera cette question avec ses invités.